Président. Donc, rebonjour à chacune et à chacun. Que notre Dieu bénisse à présent ce moment donc, de méditation et d'enseignement de sa sainte parole, en guidant mes mots et en rendant vos oreilles attentives. Amen. Si vous êtes donc des habitués de l'Église, vous savez que nous abordons le troisième volet de nos attentes et des attentes divines. Nous avons chacune, chacun des attentes dans cette vie, mais vous savez que Dieu en a aussi. Si celles de Dieu sont bien évidemment légitimes, puisqu'il est Dieu, on ne peut pas non plus... voilà. Donc, qu'en est-il des nôtres, des attentes? Après avoir successivement étudié Abel et Caïn, Naaman le Syrien, je vous propose ce matin de réfléchir sur un épisode de la vie de Marthe et Marie, donc les deux sœurs de Lazare de Béthanie, que Jésus ressuscita, vous vous souvenez. Je vous invite à lire le beau texte de Luc 10, versets 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus, et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure. La meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque j'ai lu un texte, j'essaye d'en visualiser les différentes scènes. Jésus, là, il entre dans le petit village de Béthanie. C'est un petit village qui est situé à environ 3 km, hein, vous l'avez sur la carte, 3 km de Jérusalem, sur le versant oriental du mont des Oliviers. C'est un modeste village dans lequel demeurent Lazare et ses deux sœurs, donc Marthe et Marie. Le texte de Luc dit que Marthe reçut Jésus dans sa maison. Ce fait semble accréditer l'hypothèse selon laquelle Marthe serait la veuve d'un certain Simon le lépreux, hein, qu'on retrouve dans Matthieu 26, 6, et qu'elle aurait alors accueilli Jésus dans sa propre demeure, chez elle. Hein. Marthe ouvre la porte de sa maison et accueille Jésus chez elle. Cet acte n'est absolument pas anodin. En ouvrant sa porte, elle a aussi ouvert son cœur. En effet, elle va donner de son temps, elle va donner de son argent, et bien sûr d'elle-même. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, Matthieu 10, 40, « Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » En accueillant Jésus, Marthe a ouvert une porte à Dieu, à la spiritualité, à la présence de l'Esprit. Vous savez, lorsque Jésus entre dans une maison, eh bien, il y apporte la lumière de l'Esprit-Saint, mais aussi la vraie vie. Vous savez, lorsque Jésus, par exemple, entre chez Zachée, qui était un religieux juif, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison ». Vous le savez, l'accueil de Jésus n'est pas sans conséquence sur nos vies. En laissant entrer chez elle Jésus, Marthe a ouvert sans le savoir une porte bien plus personnelle, bien plus secrète, celle de son cœur. L'accueil, la proximité de Jésus sont des occasions d'ouvrir des portes jusque-là restées fermées. Symboliquement, Jésus est la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire toute femme, tout homme. Spirituellement, Jésus est celui qui interpelle les cœurs au plus profond. Dans Apocalypse 3:20, hein, que vous connaissez tous par cœur, « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur. » C'est moi qui rajoute « de ton cœur. Hein. » « Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » L'hospitalité et l'accueil, qu'il soit spirituel ou pratique, fait partie de l'amour fraternel. Hébreux 13:2 dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant quelques-uns au longé des anges, sans le savoir. » Et là, ils font référence à Abraham et à Lot. Avons-nous, frères et sœurs, cet élan de cœur qui a caractérisé Marthe et que Dieu aime et attend de nous, hein, l'accueil. Avant de le recevoir, Marthe avait sûrement entendu parler de Jésus, ça c'est sûr, hein, tant sa réputation était grande. Elle s'était peut-être même rendue sur les chemins de Galilée où les foules se pressaient pour entendre son enseignement et aussi voir ses miracles. Elle avait probablement entendu Jésus décliner sa qualité de fils de Dieu. Au chapitre précédent, par exemple, dans Luc 10, 22, Jésus avait révélé « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Manifestement, Marthe ne pouvait pas ignorer la qualité de son hôte, qui appelait Dieu son propre Père, et qui se proclamait fils de Dieu. En recevant Jésus, Marthe, qui est une femme d'action et de tradition, elle veut honorer Jésus, le fils de Dieu, à la hauteur de sa renommée. En lui offrant l'accueil d'un fils de roi, elle va mettre les petits plats dans les grands, et organiser un repas gastronomique nécessitant beaucoup de temps et d'investissement. Marthe veut non seulement faire honneur à Jésus, mais elle veut respecter aussi les traditions orientales de bon accueil. Hein, comment lui donner tort? On ne peut pas lui donner tort. Alors Marthe a forcément des attentes. Alors quelles sont ces attentes à Marthe? Il me semble qu'elles doivent être de trois natures différentes. La première, Marthe attend que Jésus soit satisfait de son accueil, qu'il garde un bon souvenir de sa visite dans sa maison, qu'il se sente pleinement honoré. La seconde, c'est que Marthe attend et veut recevoir un bon témoignage des gens de l'extérieur. Ça se passe comme ça dans les pays orientaux. Qu'on ne dise pas « Marthe a mal reçu son hôte ». Et puis la troisième, Marthe attend de l'aide et en particulier de sa propre sœur. C'est vrai que Marthe s'est engagée dans une œuvre titanesque et elle ne veut pas faire ce repas toute seule. Alors il faut que Marie se bouge, il faut qu'elle vienne et qu'elle fasse quelque chose. Et puis la tradition ne veut-elle pas que ce soit les femmes qui travaillent dans la cuisine? Donc elle attend que Jésus l'appuie dans sa démarche. Le second personnage féminin de cette trilogie n'est autre que Marie, la sœur de Marthe. Alors, elle est très certainement sa cadette. Elle n'a pas du tout le même caractère que sa sœur. Elle est bien différente, hein. Autant Marthe est hyperactive, a tendance à s'occuper de tout, a l'habitude de tout organiser, de tout gérer, autant Marie, elle semble avoir un caractère indépendant et beaucoup plus cool, hein. Elle s'est totalement affranchie de l'autorité de sa sœur et puis aussi des traditions orientales. Son caractère indépendant lui permet de ne pas se soumettre aux mêmes obligations ménagères que sa sœur. Et cela, apparemment, sans se sentir coupable. Il paraît certain que des tensions aussi existent entre les deux sœurs à ce sujet. Elles sont vraiment en tension, en conflit. Marie, en fait, c'est une opportuniste. Elle profite des circonstances. Elle a forcément, elle aussi, entendu parler de Jésus. D'ailleurs, qui ne connaît pas Jésus en Israël, hein. Quand Marthe le reçoit chez elle, Marie, elle y voit une chance inouïe, une occasion incroyable de pouvoir l'écouter, pouvoir lui poser des questions, bénéficier de son enseignement précieux. Alors, elle va s'asseoir au pied du maître et elle va l'écouter. Elle va s'imprégner de ses paroles d'autorité. Jésus, selon les textes, impressionné. Il impressionnait tous ses auditeurs par l'autorité qu'il dégageait. Alors elle va s'imprégner de ces paroles de vérité, les paroles de celui qui dit « Je vous dis la vérité telle que je l'ai reçue de Dieu du Père ». Elle va recevoir les belles paroles de vie de Jésus. « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi, dit Jésus, a la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. » Oui, c'est Jésus qui est devant elle et qui parle est le même que celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors pour Marie, il n'y a pas photo. Entre la cuisine et l'enseignement de Jésus, eh bien, le choix est vite fait. Elle a une chance incroyable de pouvoir entendre l'enseignement du Maître. Bien sûr qu'elle ne va pas s'en priver, hein. Elle ne va pas passer à côté. Quitte à passer pour une paresseuse ou une contestataire, d'entrer peut-être en conflit avec sa sœur, elle fait le choix d'être au pied du Maître et écouter Jésus. En cela, elle pratique déjà l'enseignement que proposait Jésus. Hein, Matthieu 6, 33, « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes choses vous seront données en plus. » Marie, elle, veut honorer Jésus par sa présence et son écoute. Comment on va lui donner tort? Vous voyez, les deux sœurs, on peut dire qu'elles ont raison. Marie, comme Marthe, a des attentes dans cette vie et elle pourrait être de trois ordres. La première, Marie, nous l'avons vu, ne veut pas d'une vie banale, hein, du genre tricot, boulot, dodo. Elle sait qu'il existe une vie éternelle, elle attend de Jésus qui lui en donne le chemin. Et puis la seconde, Marie, l'indépendante, ne peut pas se contenter d'une existence restreinte de femme esclave ménagère. Elle attend de Jésus qui lui donne le chemin de la vraie liberté. Elle veut être une femme libre. Et puis la troisième, Marie sait ce qu'elle veut et ce qu'elle attend, c'est que Jésus l'enseigne sur le royaume de Dieu qui, selon la parole de Jésus, n'est ni ici, ni là, mais au-dedans de nous. Vous le voyez, Marthe et Marie ont toutes deux accueilli Jésus avec beaucoup de générosité de cœur. L'une en lui ouvrant sa porte, l'autre en lui tenant compagnie et en l'écoutant. Marthe et Marie ont cherché à honorer Jésus, à lui montrer la profondeur de leur amour. L'une en multipliant ses intentions, en s'activant pour le servir jusqu'à l'épuisement. L'autre en l'écoutant tout simplement. Vous voyez, deux sœurs, deux attitudes différentes, deux sincérités profondes et pourtant un conflit majeur qui éclate entre les deux sœurs. Chacune étant convaincue qu'elle a raison et que l'autre a tort. Et n'est-ce pas, frères et sœurs, l'image de l'Église qui sert et aime Christ mais qui parfois se déchire sur des attitudes, des principes et des traditions? Ça arrive dans les Églises. Des églises qui éclatent pour des bêtises, des fois. Il y a les pro-Marthe qui pensent comme elle et les pro-Marie qui pensent comme Marie. Ici, avec Marthe et Marie, frères et sœurs, nous avons par bonheur l'expertise de Jésus qui apporte avec sagesse une réponse à chacune des sœurs et nous offre sur un plateau doré, à nous ce matin, l'esprit du royaume des cieux, puisque Jésus était présent. Effectivement, le troisième personnage de cette trilogie, c'est bien évidemment Jésus. Il va jouer le rôle de médiateur spirituel dans le conflit qui oppose les deux sœurs. Alors, au verset 40, c'est extraordinaire ce que dit Marthe. « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider !» Hein ? Il y en a marre, quoi. Le médiateur est une autorité indépendante qui intervient pour résoudre un conflit, un litige. Jésus, en tant qu'hôte, en tant qu'invité, est-il le mieux placé pour rendre un jugement équitable? A-t-il l'aura, l'autorité requise, pour parler aux deux sœurs? Jésus, c'est le Fils de Dieu, hein, on l'a rappelé ce matin, qui dès le commencement était avec le Père. Il était Dieu lui-même. Par lui, tout a été créé et en lui réside la vie qui est la lumière de chaque femme, de chaque homme. Alors, en appelant Jésus maître, ben Marthe reconnaît l'autorité de Jésus, son autorité spirituelle. En s'asseyant au pied de Jésus pour l'écouter, Marie l'indépendante se soumet aussi à l'autorité spirituelle de Jésus. Frères, sœurs, Jésus est-il l'autorité spirituelle qui guide votre vie, vos décisions et vos pensées? Est-ce que c'est vraiment Jésus qui guide nos décisions? Alors, ce n'est pas facile de répondre à cette question. Ce n'est pas facile parce que nous sommes nés toutes et tous dans ce corps humain pécheur. Nous avons grandi dans des principes humains, des traditions et des pensées, comme Marthe et Marie, des traditions charnelles. Jésus, lui, vient avec une autorité spirituelle, c'est tout à fait différent, un langage dirigé par l'Esprit, les principes du royaume des cieux. Quand Jésus s'exprime, il utilise les paroles du royaume. Pour parler du royaume, il emploie des paraboles que personne ne comprend. Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler? Demandent les disciples. Jésus leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, et eux, ils ne l'ont pas reçu. Alors, frères, sœurs, comprenez-vous pourquoi Jésus parle dans un langage spirituel incompréhensible à des gens qu'il vient sauver? Ce n'est ni logique ni sympa, quoi. Alors, voilà l'explication que donne Jésus. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler, dit Jésus en Matthieu 13:13. Parce que tout en ayant des yeux, ils ne voient pas, et tout en ayant des oreilles, ils n'entendent ni ne comprennent rien. C'est pas plus clair, hein. Alors Jésus affine sa réponse explicative. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne et qu'ils aient à se convertir en sorte que j'aurais pu les guérir. C'est exactement ce que disait Gabriel ce matin. Est-ce qu'on vient avec un cœur ouvert, sincère? Alors, cette explication de Jésus, ça devient enfin plus clair. Ce que Jésus explique, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a un monde humain dirigé par la chair et le péché, et un monde spirituel dirigé par l'Esprit de Dieu. Jésus, lui, il vient avec les principes spirituels et puis le langage spirituel. Pour le comprendre, il faut accueillir Jésus, lui ouvrir son cœur et le recevoir. En le recevant, Jésus nous apporte en cadeau le Saint-Esprit qui est capable de nous faire comprendre le langage spirituel. Mais à toutes celles et ceux qui ne veulent pas le reconnaître, qui ne veulent pas reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, il est impossible de comprendre le langage spirituel de Jésus. Est-ce que vous avez déjà, vous, essayé de regarder un match de foot sur Canal+, sans le décodeur? Non, hein, Bernadette. Je pense que déjà le foot, ça ne t'intéresse pas. Moi, j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé parce que j'avais pas Canal+ à l'époque, et j'ai essayé. Non seulement je ne comprenais rien, je ne voyais rien, hein, mais en plus, ce n'était pas intéressant, donc j'étais obligé de couper. Et puis, maintenant, je me suis abonné à Canal+. Peut-être vous dites-vous, c'est intéressant ce que dit Daniel, mais quel rapport ça a avec l'histoire de Marthe et Marie que nous méditons? Eh bien, moi, je vous dis, c'est un grand rapport, parce que ce que Jésus attend de nous, c'est que nos cœurs deviennent sensibles et s'ouvrent comme se sont ouverts ceux de Marthe et Marie. Jésus, lui, en réalité, place le spirituel très haut. Il lui donne beaucoup de considération. Et l'humain, le charnel, très bas, en le considérant comme pas grand-chose. Jean 6, 63, « C'est l'Esprit qui donne la vie, dit Jésus. La chair ne sert de rien. » Nous, au contraire, nous donnons beaucoup d'importance à la chair, est très peu à l'esprit. Les pensées, les traditions charnelles sont si profondément ancrées en nous que même lorsque nous sommes convertis, eh bien nous continuons à avoir des pensées charnelles. Marc, la sœur aînée, croyait que Jésus était le Fils de Dieu, hein, elle était spirituelle. Dans un autre texte, celui de la résurrection de Lazare, on peut lire cet échange verbal entre Jésus et Marthe, Jean 11, versets 23 à 27, hein, pour bien montrer qu'elle était spirituelle. « Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts, répondit Marthe. » Marthe croit en Dieu, elle croit en la résurrection des morts, elle y croit de manière religieuse. Voilà pourquoi Jésus cherche à s'impliquer spirituellement dans sa vie. « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. » Voilà en quoi il s'implique. « Celui qui place en moi toute sa confiance vivra, même s'il meurt. » Crois-tu cela ? « Crois-tu qu'il faut passer par moi pour être sauvé ?» lui demande Jésus. « Oui, Seigneur, lui répond-elle, je crois que tu es le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Marthe croit, mais n'a pas encore enraciné sa vie en Jésus. Marthe est croyante, sans doute convertie, et pourtant elle va exprimer à Jésus ses pensées, ses attentes charnelles. « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir, dis-lui donc de m'aider. » Peut-être pensez-vous ce matin que Marthe a un peu raison. C'est vrai qu'humainement, on peut la comprendre. Elle reçoit Jésus, héberge sa sœur, et c'est elle qui se tape tout le boulot, toute seule. C'est plus qu'injuste, c'est même honteux. Hein. Marthe est tellement sûre de son bon droit que sa cause est juste, qu'elle espère et attend le soutien du Maître. Dans la version d'Alfred Kuhn de la Bible, qui est un peu plus détaillée, Jésus lui répond « Marthe, Marthe, tu t'actives dans la préparation d'un repas compliqué, comportant beaucoup de plusieurs services, alors qu'un seul plat suffirait. » En réalité, Marthe reçoit Jésus, le roi des rois, comme elle recevrait un monarque humain, comme elle recevrait César ou Hérode. Elle veut l'honorer tel un roi terrestre, alors que Jésus est tout sauf un roi humain. Il est le roi des cieux. Jésus est le roi qui s'est appauvri, humilié pour venir parmi nous. Jésus, c'est le roi qui est né dans une étable. Un roi qui était le fils d'un modeste charpentier. Un roi qui disait à celui qui voulait le suivre, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme » n'a pas un endroit à lui où reposer sa tête. En réalité, Jésus est le roi des rois, mais humainement, il est plus près du SDF que de César. De manière humaine, le rituel honorifique qu'entreprend Marthe pour honorer Jésus avec beaucoup d'emphase, en lui préparant un repas gastronomique avec un service hyper léché, a du sens humainement. Mais spirituellement, il est complètement décalé avec ce que Jésus attend. Pour lui, un simple sandwich aurait suffi. Hein. La priorité spirituelle, c'est l'écoute, l'instruction qu'offre la présence du Maître et dont, hélas, Marthe va se passer. Marthe, il n'y a qu'une seule chose qui soit vraiment nécessaire. Marthe a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Frères, sœurs, quelle part avons-nous choisie dans notre vie chrétienne ? Les pensées humaines que l'on essaye d'habiller en pensées spirituelles pullulent dans nos églises. Et je dis cela sans jugement parce que, pour ma part, j'en ai véhiculé un certain nombre et j'en véhicule, hélas, encore. Lorsqu'on veut, par exemple, que nos cultes soient le plus parfait possible pour honorer un Dieu parfait, cela part évidemment d'un très bon sentiment, mais il s'agit d'une pensée humaine qui nous satisfait nous-mêmes, mais qui peut empêcher certains de s'exprimer par peur de ne pas être à la hauteur. Ben, je ne sais pas prier, je ne sais pas témoigner, je ne sais pas faire de la musique. Voilà. Frères et sœurs, certaines pensées charnelles peuvent même être involontairement spiritualisées. Et je vais brièvement vous raconter une expérience que j'ai vécue. Il y a un frère chrétien converti qui est venu à la maison, et comme ça arrive de temps en temps, eh bien, il a dit « Daniel et Wardia, est-ce que je peux prier pour vous, et en particulier pour Wardia, pour sa guérison ?» Alors, comme ce n'était pas la première fois, mon épouse est atteinte de séquelles de polio depuis sa jeunesse. Donc, on a dit, si ça peut te faire plaisir, prie pour elle, pour sa guérison. Parce qu'il nous a dit, Dieu ne veut pas que ses enfants soient malades. Alors, personnellement, moi je lui ai dit que ce n'était pas la première fois et que quelqu'un avait déjà prié pour Wardia, de nombreuses personnes, et sans effet. Et puis je lui ai dit aussi que Dieu était souverain. Je lui ai rappelé qu'il pouvait guérir ou pas, parce que l'apôtre Paul lui avait demandé 3 fois sa guérison et que Dieu ne lui avait pas accordé. Alors le frère m'a donné cet argument imparable qui, je l'avoue, m'a laissé sans réaction sur l'instant. Il m'a dit « Daniel, tu es père, tu aimes tes filles, si tu avais tout pouvoir, laisserais-tu tes filles souffrir ?» Ah non, bien sûr. Et puis, ça m'a perturbé pendant de longs jours. Parce que je me suis dit, mais mince, c'est vrai, je ne suis pas d'accord avec lui, mais il a quand même raison. Alors, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a vu ce matin, j'ai prié. J'ai prié Dieu et je lui ai demandé, Seigneur, qui c'est qui a raison ? Et là, J'ai reçu une réponse par l'Esprit. Et Dieu m'a dit, Daniel, tu es père ? Ben oui. Tu aimes tes filles ? Ben oui. Si tu avais tout pouvoir, laisserais-tu tes filles mourir sous tes yeux ? Ben non. Eh bien moi, Daniel, j'ai accepté que mon fils unique meure sous mes yeux sur la croix. Voilà. Et là, j'ai compris, je me suis dit, mais c'était une pensée humaine. C'était une pensée humaine que m'avait donnée le frère. Parce que, en fait, la pensée spirituelle, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme écoute la pensée divine à l'attente de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous, on a des pensées humaines, et puis Dieu, lui, il a des pensées spirituelles. Et ce n'est pas du tout la même chose. La pensée charnelle dans l'Église, c'est lorsqu'on veut imposer ses pensées aux autres, comme Marthe. C'est lorsque, comme elle, on se plaint du manque d'investissement des frères et sœurs. C'est lorsque, comme Marthe, on est dans l'insatisfaction, dans la plainte, dans l'exigence. Marie, dit Jésus, a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Marie est une véritable actrice spirituelle. Elle aussi, elle a connu... elle est certainement remplie de l'Esprit de Dieu et elle est certainement convertie. Dans Jean 12, versets 1 à 8, on voit qu'elle a répandu un parfum de très grand prix sur les pieds de Jésus et toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Ce geste de Marie montre un investissement personnel profond et une reconnaissance de Jésus comme fils de Dieu et l'honore son Seigneur. Mais quand elle fait ça, quand elle fait ce geste de répandre le parfum sur les pieds de Jésus, eh bien les disciples voient un grand gâchis. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum et donné l'argent aux pauvres ? Et ça encore, c'est une pensée humaine. Jésus lui voit plutôt un geste prédicatif. Laisse-la faire, c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Marie, elle, a anticipé la mort expiatoire de Jésus. Elle vit déjà la grâce. En l'écoutant, en étant à ses pieds, elle a choisi la vie éternelle que personne ne pourra lui retirer. Alors, frères et sœurs, notons que, contrairement à Marthe, Marie, elle, n'a jamais été dans la plainte. Elle n'a jamais dit à Jésus, « Maître, va dire à Marthe qu'elle vienne t'écouter. » Est-ce juste que je sois la seule à le faire ? Le chrétien spirituel, selon Paul, juge de tout, mais n'est jugé par personne. Marie n'est pas dans la culpabilité parce qu'elle est dans cet esprit. Face au jugement de sa sœur, elle n'est ni dans la critique, ni dans l'amertume. Jésus, le médiateur spirituel, a remis l'Église au milieu du village. Il a placé les œuvres prioritaires et les œuvres secondaires. À aucun moment, Jésus ne dénonce les activités. Il ne dit pas « ne faites rien dans l'Église, ne faites rien dans, comme activité ». Non, il ne dénonce pas les œuvres, les engagements. À aucun moment, il n'encourage Marthe aussi à devenir une femme contemplative. Jésus rappelle qu'il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Ce sont les bœufs qui tirent la charrue et non le contraire. C'est bien parce qu'on a privilégié la relation avec Dieu qu'on peut s'engager sereinement dans l'activité. Pour nous, frères et sœurs, le risque est de privilégier les activités à la relation. Nous passons déjà tellement de temps et d'énergie à travailler aux activités domestiques, aux exigences de la famille, que lorsque on rajoute un grand nombre d'activités dites d'église, on peut se retrouver débordé et n'avoir plus de temps ni de sérénité pour écouter la parole. Enfin, c'est ce qu'on disait ce matin. Frères et sœurs, combien de fois nous endormons-nous la Bible en main ? Combien de fois repoussons-nous à plus tard nos rencontres avec Dieu ? Et j'aimerais conclure par cet exemple personnel. J'étais jeune chrétien à l'époque, et puis il y avait une grande journée d'église, et je me suis inscrit à toutes les activités, et je suis parti le matin de bonne heure, et Dieu m'avait montré que ce qui était le plus important, c'était la relation avec lui, prendre du temps avec lui chaque matin. Et je suis rentré le soir épuisé, et je lui ai dit, Seigneur, voilà, j'ai travaillé pour toi aujourd'hui et je ne fais pas mon culte personnel parce que je n'ai pas le temps. Et j'ai entendu vraiment cette voix au plus profond de moi qui a dit « Daniel, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. » Et j'étais triste. J'étais triste parce que, en fait, le plus important, c'était la relation que je pouvais avoir avec Dieu. Ce n'était pas les activités de l'Église. Voilà, frères et sœurs, l'histoire de Marthe et Marie devrait être pour nous l'occasion de revisiter nos priorités. Et je vous remercie pour votre écoute, c'était un peu long. Je vous ai... Et je vous invite vraiment à faire cette revisitation et de revoir vraiment les priorités dans vos vies. Voilà. Je vais prier maintenant. Seigneur, tu nous connais chacun, tu connais aussi notre amour pour toi, et tu sais que nous voulons aussi t'honorer par nos activités, par nos œuvres, mais Seigneur, tu nous rappelles que vraiment t'écouter, passer du temps avec toi, prendre du temps en ta présence, c'est le début de la journée, c'est le plus important, et que toutes nos activités, Seigneur, sont liés à ce moment premier dans la journée, à ce moment de relation. Seigneur, revisite aussi avec nous nos relations spirituelles avec toi et que vraiment tu sois au centre de notre vie. Gloire, gloire à ton nom, Seigneur. Amen.